Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Rémi Botsaron.
Bonjour tout le monde, c'est un plaisir et un honneur de vous accueillir dans les carnets du monde. Nous allons encore une fois écouter le monde changer, comme le fait cette émission depuis bien longtemps. Nous irons d'abord en Centrafrique, 5 ans après la fin officielle de la guerre civile. Nous sommes retournés sur place pour comprendre comment ce pays se reconstruit. Le défi est immense, les moyens manquent et les esprits sont toujours marqués par le conflit.
Avec la population, c'est un peu difficile parce qu'avec tout ce qu'on a pu subir par rapport aux événements passés, il y a trop de bandits, il y a trop de braqueurs.
Justin Morin nous expliquera notamment pourquoi l'Europe investit énormément dans ce pays aujourd'hui. Et puis nous serons en Uruguay pour tenter de résoudre un mystère. Alors qu'a priori, tout va bien dans ce petit pays d'Amérique du Sud, les électeurs s'apprêtent à chasser le pouvoir en place depuis 15 ans. Fini la gauche, ils veulent la droite et même, pour certains, l'extrême droite.
L'insécurité est horrible, comme dans tout le pays. Nous sommes fatigués des partis traditionnels. Il n'arrive à rien. Il faut dire que dans notre pays, il y en a marre des choses qui vont mal.
Notre correspondant Camille Regard est allé à la rencontre de ses électeurs uruguayens. Enfin, nous reviendrons en Europe, au Royaume-Uni, car c'est un événement pour beaucoup de monde là-bas. Aujourd'hui sort sur Netflix la 3e saison de la série The Crown, consacrée à Elizabeth II. Alors on va en profiter pour poser une question aux jeunes Britanniques, ceux qui justement regardent les séries. Que représente pour eux cette famille royale ?
Ils font des jolies photos, des super phrases d'inspiration. Quand ça apparaît sur mon téléphone et que c'est une histoire sur la famille royale, je vais avoir tendance à cliquer.
Johanna Chabas nous racontera sa balade auprès de jeunes londoniens qui ne voient pas vraiment la monarchie comme leurs aînés. Nous nous plongerons aussi dans 2 livres. D'abord un superbe et sidérant recueil du grand photographe iranien Reza. Il nous montre l'arrivée de Khomeini au pouvoir à Téhéran il y a 40 ans. Il évoque aussi les Kurdes et le monde d'aujourd'hui. Il sera notre invité. Et puis Nicolas Caro nous emmènera lui très loin parmi les mystères et les énigmes de l'histoire maritime. Enfin nous parlerons cinéma avec Joseph Chovanec du cinéma comme vous n'en voyez jamais, c'est promis. Les carnets sont ouverts, direction la Centrafrique.
Les carnets du monde sur Europe 1, Rémi Botsaron.
Cette semaine, le 11 novembre, la France a rendu hommage aux soldats morts en opération extérieure. 549 militaires, dont certains, sont tombés en Centrafrique. Et il faut bien le reconnaître, c'est surtout dans ces moments-là que l'on parle de la Centrafrique, quand la communauté internationale intervient pour s'interposer dans une nouvelle guerre civile. C'était le cas avec l'opération Sangaris, qui s'est achevée il y a 3 ans. Il s'agissait alors de mettre fin à un conflit qui a fait des milliers de morts et plus d'un million de déplacés. Mais depuis 3 ans, que devient ce pays? Comment peut-il se reconstruire alors qu'il est l'un des plus pauvres au monde? Nous sommes allés sur place avec vous, Justin Morin. Bonjour Justin.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Vous avez donc passé plusieurs jours en Centrafrique pour Europe 1. Vous allez nous en parler dans un instant, mais d'abord faisons un rappel des faits. J'évoquais à l'instant cette guerre civile qui a déchiré le pays. Pour comprendre, il faut remonter à l'année 2013.
Oui, effectivement. L'année 2013 marque en fait la fin du règne de l'ancien président François Bozizé et la reprise d'une nouvelle guerre entre communautés. En mars 2013, des rebelles armés à majorité musulmane, la Séléka, s'emparent du pouvoir à Bangui et font fuir le pouvoir en place. En réponse, des milices d'autodéfense à majorité chrétienne prennent à leur tour tout ce qu'ils trouvent pour se défendre, des machettes, des couteaux, etc. On les appelle les anti-Balaka. Les affrontements entre ces deux communautés sont extrêmement violents, des exactions sont commises des deux côtés, des dizaines de milliers d'habitants fuient vers le Cameroun, la République démocratique du Congo ou le Tchad voisin. En décembre 2013, c'est-à-dire 9 mois après le coup d'État, la communauté internationale craint un génocide. L'ONU vote une résolution pour déployer plus de 12 000 casques bleus sur place, répartis dans tout le pays. La France accompagne l'opération, c'était la force Sangaris, 2500 militaires de plus. À partir de là, les combats se font plus rares et aboutissent à un premier accord de paix en juillet 2014.
Voilà pour le contexte, on a bien compris. Et aujourd'hui donc, vous êtes retourné sur place, où en est-on ?
Eh bien, au début de l'année, un nouvel accord de paix a été signé entre l'État et 14 groupes armés. 14 groupes armés, c'est vous dire la difficulté sur place encore. Il est en train d'être mis en place sur le terrain. Un nouveau président a été élu. Mais ce qui frappe vraiment quand on arrive, c'est l'omniprésence des organisations internationales international dès la sortie de l'avion sur le tarmac de l'aéroport de Bangui. Des avions de Médecins Sans Frontières, des avions blancs siglés UN pour United Nations, sigle que l'on retrouve aussi sur des blindés postés au carrefour stratégique de la ville. Des pick-up circulent aussi sur les principales artères avec le drapeau de l'Union européenne ou le logo bleu en forme d'épi de blé de la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Et plusieurs sources me l'ont confirmé, en fait, l'État centrafricain très faible vit sous perfusion de la communauté internationale.
Et c'est ce qui permet de garder un équilibre au moins dans la capitale.
Oui, à Bangui, on peut dire que le calme est revenu, mais la guerre civile a vraiment laissé des traces. J'ai pu suivre une patrouille de police dans différents quartiers de la ville. Alors les forces de l'ordre évitent toujours d'aller de nuit dans le quartier à majorité musulmane du PK5. PK, c'est point kilométrique 5, en fait, à partir du PK0, qui est le centre-ville. C'est encore très tendu dans ce quartier du PK5. Joseph est une jeune gendarme mobile de 27 ans et elle constate au quotidien les mauvais restes du conflit.
Avec la population, c'est un peu difficile parce que avec tout ce qu'on a pu subir par rapport aux événements passés, il y a trop de bandits, il y a trop de braqueurs. Par exemple, s'il y a des manifestations, lorsqu'on vient, on nous jette des pierres. Parfois, il y a des coups de feu. Mais on a vu que les choses s'améliorent mieux. La mentalité des centrafricains a changé et que cette situation, elle est en train d'être bannie. On réapprend à vivre ensemble, on fait de notre mieux pour être ensemble, donc la cohésion sociale. Je ne peux pas me mettre du côté des Centrafricains ou du côté des musulmans, ou d'un côté on est au milieu comme médiateur. J'ai espoir, parce que les choses s'améliorent déjà mieux. Donc j'ai espoir qu'avec le temps, tout va redevenir en ordre comme auparavant. J'ai confiance en moi et je sais qu'on va y arriver. Petit à petit, on va y arriver.
On entend l'espoir de cette jeune gendarme, elle le dit deux fois même, mais ça ne doit pas faire oublier les difficultés rencontrées sur le terrain.
Oui, elles sont vraiment nombreuses. Les forces de sécurité intérieure sont mal formées, sous-équipées, en sous-effectif aussi. À peine 3500 policiers et gendarmes, essentiellement à Bangui, où vit près d'un tiers de la population du pays. Une grande campagne de recrutement est en cours, avec des affiches collées un peu partout dans la capitale. Le but, c'est d'arriver à 10 000 d'ici 2023.
Et donc, situation toujours délicate à Bangui, on l'entend, mais au moins l'État essaye visiblement d'exister dans la capitale. Comment ça se passe ailleurs?
Alors la vérité, c'est que l'État n'a aucun contrôle sur quasiment tout le reste du territoire. On parle de 80% de la Centrafrique contrôlée par des groupes armés, des sortes de mafias qui ont pourtant signé l'accord de paix, l'accord de Khartoum signé au début de l'année. Mais ces groupes armés, ils continuent de garder leur influence sur les ressources du pays. C'est le bois, le diamant et l'or principalement. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a confrontation, mais plus sur une forme de statu quo. Il y a une expression qui résume d'ailleurs assez bien la situation, elle est du chercheur de l'Institut français des relations internationales Thierry Vircoulon. Il parle d'une situation de ni paix ni guerre.
Ouais, et dans ce contexte, alors que fait la communauté internationale? Elle continue à investir.
Oui, beaucoup, beaucoup d'argent pour que cette paix fragile tienne. L'Union européenne, par exemple, est l'un des principaux acteurs sur place et soutient des projets bien précis. Par exemple, l'entreprise française Civipol, en charge d'une mission de service public, bénéficie d'un fonds d'urgence de 8 millions d'euros pour une mission de 18 mois. Son rôle, c'est d'accompagner le redéploiement de l'État sur le territoire. Concrètement, c'est par exemple former les forces de sécurité intérieure, la police, les gendarmes et les douaniers principalement, leur fournir des infrastructures, du matériel. Ils ont aussi la charge de veiller à la sécurisation d'une route vitale pour le pays. Elle part à l'ouest de Bangui jusqu'au Cameroun. C'est la seule route à peu près fiable aujourd'hui dans le pays. 600 km de voies en très mauvais état, mais indispensable, comme l'affirme Cyril Mboukouli. Il est douanier sur ce corridor.
Très important pour le pays parce que la République centrafricaine était pays enclavé. C'est grâce à ce corridor qui vient du Cameroun, c'est-à-dire depuis Douala, qui est au bord de la mer, jusqu'à Bangui. Et c'est grâce à cet tronçon-là que la République centrafricaine est ravitaillée. C'est grâce à des recettes collectées sur ce tronçon-là qu'on paye les fonctionnaires de l'État. Alors voyez-vous, si cet axe-là est coupé, on va se nourrir comment? On va ravitailler le peuple comment? C'est pourquoi je vous dis, cet axe-là est très important pour l'intérêt de notre pays.
Et on imagine que cette route, c'était un enjeu de la guerre civile.
Et oui, oui, parce qu'il y avait beaucoup d'argent avec le racket à se faire sur cette route. Le corridor était très prisé, des coupeurs de route justement. Et encore aujourd'hui, de nombreuses barrières illégales apparaissent. J'ai discuté avec Pavel, c'est un chauffeur poids lourd camerounais. Il a justement fait toute la route depuis Douala au Cameroun.
Par rapport à avant, les menaces des groupes armés ont été un peu réduites en la baisse. Maintenant, tu peux facilement faire la route sans avoir peur que bon, je risque d'être attaqué. Le seul problème sur la route, c'est que au niveau des contrôles, il y a des petits malins. Ils laissent la barrière traîner, ils veulent que vous leur donniez de l'argent avant qu'ils vous ouvrent la barrière. Normalement, ils ne doivent pas nous contrôler.
Et effectivement, en fait, aujourd'hui, il y aurait une vingtaine de barrières illégales. Alors, l'entreprise Civipol, toujours financée par l'Union européenne, a aussi pour mission de réaménager les 9 barrières officielles pour qu'elles soient bien identifiables par les chauffeurs poids lourds.
Et ça va prendre combien de temps, tout ça?
Alors, tout ce travail de sécurisation sur cette route doit se terminer dans 6 mois et doit servir d'exemple pour le reste du territoire. C'est en tout cas l'idée avancée par Samuela Hisopi, l'ambassadrice de l'Union européenne en Centrafrique. Juste un chiffre, depuis 2014, depuis 5 ans, l'Europe a engagé 850 millions d'euros dans ce pays.
Moi, je dirais vraiment que l'Union européenne investit dans la reconstruction du pays.
Au niveau stratégique, bon, on peut se dire qu'à part la France, c'est un pays qui intéresse, oui et non. Mais en réalité, nous sommes au cœur de l'Afrique. Et en sachant que c'est un pays où les institutions sont encore très faibles, on peut se dire qu'il y a des parties du territoire que personne n'est en mesure de contrôler. Et donc, on ne peut pas exclure que ça puisse effectivement devenir une espèce de no man's land, voilà, où, vu qu'il y a des foyers de crise tout autour, on risque qu'ici s'installent des problèmes plus graves que nous avons aujourd'hui.
Alors, on est loin de la situation au Sahel ou au Moyen-Orient, mais il existe par exemple des groupes islamistes qui naviguent dans les pays voisins et qui pourraient être attirés par cette zone très pauvre où l'État est quasi absent. Donc l'idée, c'est bien de prévenir plutôt que de guérir. L'un des prochains rendez-vous très importants en Centrafrique, c'est l'organisation démocratique de l'élection présidentielle en décembre 2020.
Dans un peu plus d'un an, donc, hein, un test majeur, cette élection pour la Centrafrique. Merci beaucoup pour vos explications, Justin. Et à bientôt.
À bientôt.
Dans un instant, on part en Uruguay et on va essayer de comprendre pourquoi le pouvoir en place là-bas est menacé alors que visiblement tout va bien dans ce pays.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h et avec vous Rémi Bossaron. C'est en Amérique du Sud que l'on se rend maintenant, il est 13h15, direction l'Uruguay, avec des élections qui approchent et un résultat qui s'annonce très surprenant.
Dimanche prochain, les Uruguayens vont voter pour élire à la fois leur président et leur représentant au Parlement. Il y a quelques semaines encore, tout semblait écrit. La gauche, au pouvoir depuis 15 ans, devait logiquement poursuivre son règne. Il faut dire que le pays va bien, il est stable, la pauvreté a reculé, le PIB a augmenté. Et pourtant, au vu des résultats du premier tour, la gauche pourrait être chassée du pouvoir. Place à la droite et même à l'extrême droite, ce qui n'est pas rien dans un pays qui a connu une dictature militaire. Un revirement spectaculaire que l'on va tenter de comprendre avec notre correspondant sur place. Camille Regard s'est rendue dans le nord du pays, dans une région où la gauche a perdu 17 points depuis la dernière élection.
Située à la frontière avec le Brésil, à 500 km de la capitale Montevideo, Rivera est une ville arborée et vallonnée à la tranquillité bien uruguayenne. Ici, entre la dernière élection en 2014 et le premier tour de la présidentielle fin octobre, la gauche est passée de la première à la quatrième position.
Dans ma vie, j'ai voté pour tous les partis, mais maintenant, je vais voter pour la droite.
Assis sur une chaise de jardin devant sa maison, Carlos Madeira est un ancien entrepreneur à la retraite. Après avoir voté pour la coalition de gauche du Frente Amplio aux dernières élections, il soutient désormais la droite.
Les débuts du Frente Amplio ont été brillants, mais ils ont commis beaucoup d'erreurs et les citoyens s'en rendent compte. Ils leur ont donné leur chance. Et maintenant vient le vote sanction. Les impôts sont trop hauts. Ici, on paye entre 35, 40 et même 50% d'impôts. C'est impossible, impossible d'administrer une entreprise. Et les dépenses du Frente Amplio sont monstrueuses.
Si l'Uruguay n'a connu que la croissance depuis 15 ans, le chômage, actuellement autour de 9%, est en hausse et des affaires de détournement de fonds et de mauvaise gestion sont venues ternir le bilan de la gauche. La peau mate et les yeux bleus délavés, Santiago Cañete s'apprête à commencer sa journée de travail. Ce chauffeur de poids lourd a lui aussi été déçu par la gauche et sa politique économique.
L'entreprise pour laquelle je travaille a des problèmes. Il y a beaucoup de gens dans la précarité, parce que les entreprises ferment, notamment les PME. Les entrepreneurs se plaignent qu'il y ait trop d'impôts, des impôts et encore des impôts. Les salaires sont trop hauts, ils ne peuvent pas payer, ils ne peuvent pas subsister.
Autre facteur qui pousse Santiago Cañete à se tourner vers la droite, l'insécurité. Depuis la dernière élection dans le département de Rivera, le nombre d'homicides a doublé et les vols ont augmenté de moitié, des statistiques similaires à la moyenne nationale. Ce problème est sur toutes les lèvres et pousse même certains à se tourner vers l'extrême droite. Devant la gare routière de Rivera, Gabriela Pereira et son mari Pablo vendent du café et des gâteaux. À eux deux, ils gagnent moins de 15 000 pesos par mois, soit environ 500 euros. Cœur de cible de la gauche, ils ont pourtant opté pour le parti d'extrême droite Cabildo Abierto.
Venez ici à Rivera, l'insécurité est horrible comme dans tout le pays. Nous sommes fatigués des partis traditionnels, il n'arrive à rien. Et regardez, Cabildo Abierto a été monté par un ancien commandant de l'armée.
Donc pour nous, ils défendent l'ordre, les bonnes mœurs.
Il
faut dire que dans notre pays, il y en a marre des choses qui vont mal.
Il y a encore un an, le parti d'extrême droite Cabildo Abierto n'existait pas et son candidat, Guido Manini Ríos, était encore chef des armées uruguayennes. Il y a 3 semaines, il a obtenu 10% des voix au premier tour de la présidentielle, du jamais vu pour un ex-militaire depuis la fin de la dictature en 1985. À Rivera, un électeur sur 4 a voté pour lui. Cet homme, qui veut lutter contre l'immigration et faciliter le port d'armes, a donc réussi à séduire les déçus du Frente Amplio, ceux-là même qui avaient voté par le passé pour l'ancien guérillero d'extrême gauche Pepe Mujica, président de 2010 à 2015. Un grand écart que le journaliste Freddy Fernandez explique par les points communs entre les deux hommes.
Il y a plusieurs explications. La plus facile consiste à dire « c'est la famille militaire qui a voté pour Manini ». Mais quand on regarde la répartition des votes, on se rend compte que des électeurs de Cabildo Abierto avaient voté pour Pepe Mujica par le passé. Mujica de gauche et Manini de droite, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ce sont tous les deux des chefs charismatiques. Et il y a des jeunes qui, après avoir voté Mujica dans le passé, ont opté pour Manini pour cette élection.
Pour tenter de rattraper son retard dans les sondages, la gauche a d'ailleurs décidé de ressortir Pepe Mujica du placard. Jusqu'ici en retrait, l'ancien président est en première ligne de l'opération Voto a Voto lancée par le Frente Amplio, une campagne de proximité qui consiste à aller démarcher les électeurs individuellement. Militant de 39 ans, Rodrigo Bonicha distribue des prospectus du Frente Amplio dans un bus.
Le Frente Amplio reconnaît qu'il a fait des erreurs qu'il faut réparer. Et ces prospectus expliquent justement cela.
Au premier rang du mea culpa de cette brochure, on trouve justement la question de la sécurité qui a coûté tant de voix à la gauche. Le bus s'arrête devant un centre commercial où nous retrouvons Fabian Fantaura, responsable du Frente Amplio à Rivera. Selon lui, la gauche n'a pas su défendre son bilan et c'est ce qui explique son recul.
Je pense que c'est l'usure du pouvoir après 15 ans de gouvernement. La politique, c'est pas juste faire, c'est aussi convaincre. Et c'est là que nous avons échoué. Il s'agit de comprendre comment les choses fonctionnent. Ces impôts servent à payer l'accès à la santé pour tous, à payer une grande partie des avantages que nous avons et qui n'existent pas dans d'autres parties du monde. Au Chili, les manifestants réclament entre autres un accès à l'éducation qui ne les endette pas pour le reste de leur vie. En Uruguay, l'accès à l'université est gratuit et avec le gouvernement du Frente Amplio, l'université de la République s'est installée ici, à Rivera, où elle n'existait pas.
S'il se dit confiant pour le second tour, Fabian Fantaura se prépare tout de même à une éventuelle défaite avec un espoir. Que 5 ans de gouvernement de droite suffisent à ramener les électeurs vers le Frente Amplio. Rivera, Camille Regard, Europe 1.
Et Camille Regard est avec nous en ligne depuis Montevideo, la capitale uruguayenne. Bonjour Camille.
Bonjour Rémi.
Alors quand on écoute votre reportage, on se rend compte que la situation en Uruguay, en fait, elle est très différente de ce qu'on pourrait imaginer en regardant simplement les indicateurs économiques.
Oui Rémi, et en fait c'est surtout lié à ce climat d'insécurité qui a été au cœur de la campagne électorale. Le trafic de drogue a beaucoup augmenté ces dernières années en Uruguay, et le taux d'homicide aussi. On compte aujourd'hui près de 12 assassinats pour 100 000 habitants. Et sur le continent, seuls le Brésil, la Colombie et le Venezuela présentent des chiffres supérieurs. La droite a su capitaliser sur ces mauvais résultats et ça explique en partie qu'elle parte favorite pour le second tour.
Alors justement, il faut le préciser tout de même, au premier tour de l'élection, le candidat de gauche est arrivé en tête avec 10 points d'avance sur son premier poursuivant. Alors pourquoi il est donné perdant au second tour ?
Bien parce qu'en réalité, après 15 ans au pouvoir, le grand mouvement de gauche, le Frente Amplio, a fédéré contre lui l'ensemble des autres partis. Et tous ces partis ont donné des consignes de vote en faveur du candidat de la droite et du Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Celui-ci a réussi à se poser en rassembleur d'une opposition de droite qui jusqu'ici était fragmentée, et à les réunir et à réunir le centre et l'extrême droite autour d'un programme de coalition intitulé « Notre engagement pour le pays ». C'est notamment pour ça qu'il est actuellement donné vainqueur par les sondages, avec environ 48% d'intention de vote contre 42% pour le candidat de la gauche, Daniel Martinez.
Et donc la gauche a décidé de réagir, vous le dites dans le reportage, elle a dégainé la carte Mujica. On le connaît celui-là, José Mujica, on en a entendu parler en France il y a quelques années.
Oui, le Frente Amplio a décidé d'appeler en renfort les figures historiques du parti, et notamment donc l'ancien président Pepe Mujica qui a 84 ans. C'est l'ancien chef de la guérilla Tupamaros, et il avait passé 13 ans en prison pendant les dictatures, dont même 2 au fond d'un puits. Et il est vrai, on avait parlé de lui en France il y a une dizaine d'années quand il était devenu président, notamment parce qu'il avait permis la légalisation du cannabis. Alors c'est un personnage truculent, à la langue bien pendue, Et à l'époque, il reversait l'intégralité de son salaire à des associations et il avait hérité du surnom « le président le plus pauvre du monde ». C'est donc une figure très charismatique de la gauche à la fois en Uruguay et sur le continent. En cas de victoire du Frente Amplio, il devrait prendre le ministère de l'Agriculture, mais il a déjà promis de rapidement laisser sa place à la nouvelle génération.
Et puis Camille, il y a le contexte régional, forcément, on y pense, hein, que ce soit les événements en Bolivie ou au Chili ces dernières semaines. Est-ce que ça peut jouer un rôle dans cette élection ?
Oui, le contexte régional très agité ces dernières semaines s'est immiscé dans la campagne électorale. La gauche a essayé de capitaliser sur la révolte au Chili, car c'est un pays qui est souvent cité en exemple par la droite uruguayenne. Et la droite, quant à elle, a critiqué le soutien du Frente Amplio au président démissionnaire bolivien Evo Morales. Et elle dénonce la politique de neutralité de la gauche vis-à-vis du Venezuela. La politique intérieure reste néanmoins le principal enjeu de l'élection et il est donc difficile de savoir si ces questions régionales pourront faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre.
Et on suivra ces résultats avec vous évidemment depuis l'Uruguay. Merci beaucoup Camille et à bientôt.
À bientôt Rémi.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h24, Rémi Botsaron. Les carnets du monde, c'est aussi chaque semaine un livre dans le monde et c'est avec Nicolas Carreau que l'on voyage.
Et cette semaine, on va quitter la terre ferme avec vous, Nicolas. Bonjour.
Bonjour Rémi.
Vous nous emmenez visiter les mers et les océans du monde.
Avec un atlas un peu particulier, ça s'appelle Atlas des fortunes de mer. Fortune pas dans le sens de trésor, mais plutôt de destin, de coup du sort. Cyril Hofstein, dans cet atlas, a répertorié des énigmes, des mystères, des histoires de toutes sortes, avec un point commun, donc la mer.
Alors par exemple.
Par exemple, est-ce que vous connaissez l'histoire de la Marie Céleste ?
Je ne connais pas.
Nous sommes le 4 décembre. Décembre 1872, au milieu de l'Atlantique, du côté des Açores, un navire, le Dei Gracia, passe par là et il croise un autre bateau. Mais c'est très bizarre. Les voiles sont mal réglées, la plupart d'entre elles fessaillent ou sont déchirées d'ailleurs. Le Dei Gracia s'approche, il envoie des signaux, pas de réponse, bon, il s'approche encore. Le navire s'appelle la Marie Céleste. Il se trouve que le capitaine du Dei Gracia connaît le commandant de la Marie Céleste, Benjamin Briggs. Or, il n'est pas à bord. D'ailleurs, il n'y a personne à bord. Le canot de sauvetage n'est plus là non plus.
D'accord. Et donc, l'équipage s'est mutiné. Ils ont tué le capitaine et ils sont partis.
Peut-être, mais il n'y a aucune trace de violence. Toute la marchandise est encore là. Toutes les vivres aussi. La cuisine est en bon ordre. Tout est briqué. C'est un mystère. Des dizaines de théories ont circulé. Conan Doyle lui-même, le père de Sherlock Holmes, a mené l'enquête. Mais on ne sait toujours pas où a disparu l'équipage de la Marie Céleste.
Et il y en a beaucoup, des mystères comme ça ?
Plein. La mer fourmille d'énigmes et d'histoires étranges. C'est dû sans doute à la peur qu'elle a longtemps inspirée, selon Cyril Hofstein, ancien marin et auteur du livre.
Tout simplement parce que c'est la mer, c'est le territoire inconnu par excellence. On le connaît un peu mieux aujourd'hui. Mais par exemple, ses fonds restent largement inexplorés. On connaît sans doute mieux la Lune que la mer. Pendant des millénaires, la mer, c'était la limite du monde. On ne savait pas ce qui s'y tramait. On la pensait gouvernée par des démons, des dieux, des forces incontrôlables. Donc aller sur la mer était toujours un moment de risque. Un moment d'inconnu, un moment où tout peut arriver, d'où l'appellation fortune de mer. La fortune de mer étant le terme qui regroupe tout ce qui peut arriver quand on est sur l'eau, le pire comme le meilleur.
Alors Nicolas, vous allez bien nous en raconter un autre de mystère.
Vous avez sans doute déjà entendu parler du Hollandais volant.
Ça oui.
C'est une histoire qui date du XVIIe siècle et qui perdure, notamment à cause du film qui s'est emparé de l'histoire avec Ava Gardner, et puis à cause de Wagner aussi, bien sûr. L'opéra de Wagner, le Hollandais volant, on retrouve aussi le Hollandais volant dans Pirates des Caraïbes. Bref, c'est un mythe et la légende raconte donc l'histoire d'un capitaine hollandais tyrannique qui refuse de laisser son équipage se reposer avant d'avoir passé le cap de Bonne-Espérance. Pourtant, il y a un ouragan, c'est extrêmement dangereux. Le marin qui tente de se révolter pour l'en empêcher est abattu froidement et dans sa folie, le capitaine hurle face au vent « Je franchirai ce cap, dussé-je naviguer jusqu'à la fin des temps ?»
Or,
un esprit, merci, traînait par là et condamne le capitaine à une malédiction éternelle. Il le prend au mot en fait. Le bateau et son capitaine errera pour toujours entre le cap et le cap de Bonne-Espérance pour l'éternité. Sauf que le capitaine a le droit de passer une journée à terre, une seule, tous les 7 ans. Et si pendant cette journée, il trouve une femme qu'il aime, il sera délivré de sa malédiction. C'est une très belle légende, mais plus ou moins inspirée d'une histoire vraie.
La réalité est sans doute plus prosaïque. Cette histoire, finalement, c'est celle de Bernard Fock, un capitaine hollandais de la Compagnie des Indes de l'époque, qui avait réussi le tour de force de faire le voyage jusqu'à Manille en moins de 2-3 mois, ce qui était une véritable prouesse. Et comme il était très très laid, mais très bon marin, la légende a été lancée qu'il avait vendu son âme au diable. Voilà, c'est un peu moins merveilleux, mais on pense que c'est un véritable personnage historique, le Hollandais volant.
Et on peut encore le croiser aujourd'hui sur les mers, il apparaît pendant les tempêtes, c'est ça?
Exactement, alors personne ne l'a vu depuis la Seconde Guerre mondiale, ah, cela dit, peut-être qu'il a trouvé l'amour finalement.
Ah peut-être, peut-être. Belle histoire, et on en trouve plein d'autres, donc dans cet atlas des fortunes de mer, c'est chez Artaud.
Oui, et il faut noter qu'une partie des gains sont reversés à la SNSM, les sauveteurs en mer, double raison d'acheter ce livre.
Et effectivement, merci Nicolas. Et dans un instant, on reste, on va dire, dans la bibliothèque des carnets avec le photographe Reza qui nous montre l'Iran il y a 40 ans quand Khomeini arrive au pouvoir.
Europe 1, les carnets du monde.
Cette semaine, on écoute Le Monde changer en compagnie de Rémi Botsaron sur Europe 1. Il est 13h31, coup de projecteur sur un homme qui nous montre le monde depuis des dizaines d'années et qui cette fois nous parle de son pays natal. Le photographe iranien Reza est l'invité des carnets du monde.
C'est un recueil de photos à la fois lumineux et sombre dont on va parler aujourd'hui. Lumineux comme ces visages de femmes perdues dans l'océan de tissu noir qui recouvre leur corps. Ça, c'est la couverture du recueil. Le titre, Iran, rêves et dérives, des photos qui montrent un pays qui bascule, l'Iran donc, entre 1978 et 1985, entre la dictature du Shah et la République islamique, l'Iran, photographié par Reza, qui est avec nous. Bonjour Reza.
Bonjour. Oui, c'est un livre recueil de travail de mon frère Manoucher et moi, deux frères photographes, qui avons couvert ces périodes avant, pendant et après.
Oui, ce sont en fait les premières photos de votre carrière. Vous êtes ensuite parti en exil, vous avez parcouru le monde, en particulier les terrains de conflit. Mais c'est dans votre pays, donc l'Iran, que votre vocation est née il y a 40 ans. Vous deviez devenir architecte à l'époque, mais quand la révolution islamique est arrivée, vous avez voulu photographier, montrer, témoigner. Ça s'est imposé à vous.
La photographie, c'était ma passion depuis l'âge de 13 ans. Et j'ai appris en autodidacte la photographie, tout en me disant que ce n'est pas un métier, je vais devenir architecte. Je suis devenu architecte, mais en continuant en photographie. Mais dès la première manifestation dans les rues de Téhéran, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de très grand qui est en train d'arriver. Et j'avais envie de photographier ça. Et j'ai pris 3 jours de congé de mon cabinet d'architecture. Et le 3 jours est devenu 4 jours et 5 jours. Et ça fait 40 ans que je suis maintenant photographe et je ne suis plus retourné dans le cabinet d'architecture.
Et vous vous souvenez de la première photo, ou l'une des premières photos, où vous vous êtes dit, là, je suis en train de saisir quelque chose d'historique?
Oui, c'était, d'ailleurs, c'est dans le livre, c'était le jour où je me suis trouvé devant une grande manifestation, et il y avait un tout petit garçon qui tenait un drapeau sur ses épaules, d'une façon incroyable, fière. Comme je venais d'apprendre le français, le premier mot qui m'est venu, c'était « Ah !» C'est Gavroche. Et donc, il est dans le livre aussi, cette petite Gavroche.
Et ce que vous montrez aussi, c'est non pas un petit garçon, mais un homme qui était partout en Iran en 79. Sur les photos, les affiches, les murs, c'est évidemment l'ayatollah Khomeini. Vous le dites, cet homme, c'est la source d'un mal qui se répand partout aujourd'hui dans le monde.
Absolument. Ce que j'ai vu qui est arrivé en Moyen-Orient aujourd'hui, les Daesh, les Al-Qaïda, les frères musulmans, quelque part, tout ça, tous ces grands mouvements islamistes, c'est né à partir de ce que Khomeini a répandu. Quand il était en exil en France, à Neuf-le-Château, et qui lançait la révolution, il lançait ça que sur les mensonges. Ces mensonges en disant que quand nous serions au pouvoir, il y aura l'eau gratuite, l'électricité gratuite, le pétrole gratuit, la santé gratuite, et en plus, dès qu'il y aura le premier gouvernement, nous, les clergés, on va rentrer dans les écoles et continuer. Tout ça, c'était que des mensonges. Et c'est à base de ces mensonges aujourd'hui que nous avons Daesh, Al-Qaïda et tous ces fondamentalistes islamistes qui font tant de mal au monde.
Et à l'époque, vous avez cherché à le comprendre, Khomeini. Vous l'avez rencontré. Il y a cette photo incroyable en noir et blanc dans le recueil. Il est seul dans une chambre, il est assis sur un matelas, les murs sont nus, le rideau est fermé. Il nous fixe dans la pénombre, il vous fixe. Reza, vous restez très peu de temps avec lui ce jour-là, mais vous comprenez qu'une chape de plomb va s'abattre sur votre pays. Pourquoi ?
Parce que quand la révolution finalement arrive à faire tomber le Shah d'Iran et installer la République islamique, cet homme qui a fait monter des millions de gens et finalement a eu sa révolution, la révolution qu'il voulait. Il rentre en avion accompagné de journalistes et il y a un journaliste de France Télé qui pose la question. Monsieur le pilote, il vient de dire que nous sommes rentrés dans l'espace aérien iranien. Quelle est votre émotion? Il regarde la caméra, il dit rien. Et ce rien, ce mot, ce rien d'un homme qui rentre 15 ans d'après l'exil, il y a des millions de gens qui l'attendent, ça m'a complètement bouleversé, ça m'a même choqué en disant c'est pas possible. Un être humain ne peut pas avoir aucune émotion. Je veux le voir et regarder dans ses yeux. Et cette photographie, c'était après des mois et des mois que j'avais fait toutes les démarches pour faire un portrait de lui dans sa chambre. Et c'est à ce moment, en regardant dans ses yeux, j'ai senti que c'est comme on dit en Iran, c'est Sangdel, ça veut dire quelqu'un qui a du corps de pierre, parce que son regard, il n'y a rien derrière ça.
Et vous avez compris que cet espoir serait déçu, trahi, l'espoir suscité par Khomeini à son arrivée, notamment chez des femmes à l'époque. Et au fil des pages, il y a une couleur qui s'impose, c'est le noir. Le noir des tchadors, il y a cette photo que vous prenez en 79 dans la boutique d'un bazar à Téhéran, photo qui est très marquante, qui est dans ce recueil également. Parlez-nous de cette photo et dites-nous ce que vous ressentez à ce moment-là dans ce bazar.
La couleur noire en Iran, c'est la couleur du deuil. Depuis mon enfance, c'était, dès qu'on voyait les gens habillés en noir, c'était le deuil, c'était quelque chose de grave qui était passé. Et arrivé de Khomeini, les manifestations... Petit à petit, on voit cette couleur noire qui est en train de répandre partout, partout, partout. Et le jour où, à Bazar de Téhéran, d'un seul coup, je me trouve devant cette boutique qui ne vend que de noir, de toutes les formes, ça m'a complètement pincé le cœur. Je me suis dit, ça, c'est pas normal que les femmes de ce pays, que je les voyais avant, même s'ils avaient des tchadors, mais c'était que des tchadors avec plein de fleurs et pas de noir, qui se mettent en noir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, vraiment. L'Iran est devenu le plus grande prison au ciel ouvert au monde.
Ces photos, elles nous parlent aussi du monde d'aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure. Je voudrais que vous écoutiez cette femme, cette Kurde syrienne, qu'on a pu entendre il y a un mois sur Europe 1. Son village était alors bombardé par l'armée turque.
Les gens sont effrayés. Un petit garçon de 5 ans a été blessé et transporté à l'hôpital. Le problème, c'est qu'Erdogan attaque les civils en ce moment. Pas seulement les militaires, les civils. Ce sont les victimes aujourd'hui. On sait qu'on est tout seul, comme toujours, mais on ne peut pas se défendre tout seul contre les frappes aériennes.
On sait qu'on est tout seul, comme toujours, dit cette Kurde interrogée par Pauline Jacquot. Vous, Reza, en 1980, vous êtes le seul, avec votre frère, le seul à vous rendre au Kurdistan iranien pour voir déjà, à l'époque, ce peuple se faire écraser par l'armée.
Depuis l'arrivée de Khomeini, le premier groupe qui sont vus complètement attaqués, c'était tous les gens qui avaient participé à la révolution, qui étaient que des hommes ou des femmes de gauche, ou je dirais intellectuels, ou éclairés même. Là, c'était les premières. Le deuxième groupe, c'était les Kurdes. Ils ont commencé une attaque d'envergure avec des avions, des bombardiers, parce que les Kurdes, qui sont le plus ancien peuple de Moyen-Orient, quelque part, et que malheureusement, il y a centaines d'années, dans le partage de l'Orient après l'Empire ottoman, étaient partagés en quatre. Une partie en Iran, une partie en Turquie, en Syrie et l'Irak, qui était le nouveau pays il y a 100 ans. Depuis 100 ans, c'est le peuple qui souffre le plus au monde, qui est torturé, qui est mis en prison, qui est massacré, comme aujourd'hui qui se passe en Kurdistan de Syrie, exactement. Et malgré tout ça, ce peuple, c'est le peuple qui peut sauver l'Orient, parce qu'il a des valeurs démocratiques, parce qu'il a des valeurs dans lesquelles toutes les religions peuvent vivre ensemble, parce qu'il a des valeurs où les femmes sont libres. Et ça, c'est pourquoi je me force encore de répandre l'importance de ce peuple kurde dans l'avenir de Moyen-Orient et le monde.
Et parmi les photos que vous avez montrées à l'époque et qui parlent encore évidemment aujourd'hui, il y a celle qui m'a beaucoup marqué, le visage d'un père et de son enfant qu'il tient dans les bras. L'enfant est blessé à l'œil par un éclat d'obus. Il a un énorme pansement sur l'œil. On devine la blessure derrière. Il y a beaucoup de dignité chez eux. Et cet homme vous a dit... photographier, montrer au monde cette injustice, c'est ce message qui vous porte depuis 40 ans dans le monde, Reza.
Vous savez, quand on est dans les situations où il y a tout un peuple en détresse dans les reportages, quand on se trouve devant les gens qui souffrent d'une injustice, on se dit, il y a une raison que je suis là. Et la seule raison, c'est porter la voix de ces hommes, et c'est des femmes qui sont devant injustice au monde entier. À partir de ce moment, il y a une responsabilité sur nos épaules. On n'est plus la personne qui était avant, parce que quelqu'un en détresse nous a donné une responsabilité. Montrer au monde cette injustice, montrer au monde ce que je vis. Et c'est comme ça que je dis, dans ce métier, il y a cette noblesse aussi de dire qu'on est messager, on est quelqu'un qui doit porter le message de quelqu'un d'autre, même si, parce que je parle des Kurdes, demain peut-être que je vais avoir des problèmes avec les Turcs, parce que je parle des Turcs, je vais avoir des problèmes avec des Arméniens, parce que je parle des Palestiniens, je vais avoir des problèmes avec d'autres gens, mais on doit faire ce qui est, à notre avis, à notre regard, juste. Et pour moi, la justesse aujourd'hui, c'est de parler de ce peuple kurde.
Et vous continuez donc à porter ce message avec notamment ce recueil « Iran, rêves et dérives » aux éditions Ebec. Reza et votre frère Manoucher. Merci beaucoup, Reza.
Et je dois ajouter aussi que le texte est par Rachel Degati, qui explique un peu l'ensemble de ce que depuis ces années nous vivons et nous réfléchissons par rapport à l'avenir de l'Iran, mais l'avenir de l'Orient, parce que la fin de République islamique ou l'État islamique iranien, ça peut emmener une nouvelle ère dans toute l'Orient, une meilleure vie pour tous les gens.
Et donc ça nous parle aussi du monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Reza.
Merci de m'accueillir.
À suivre dans les carnets, le Royaume-Uni qui se passionne pour sa famille royale, oui, mais seulement quand elle apparaît dans une fiction.
Europe 1, les carnets du monde.
Aujourd'hui sort sur Netflix la troisième saison de la série The Crown, qui met en scène la vie d'Elisabeth II. C'est l'occasion pour les carnets de parler du Royaume-Uni sans parler du Brexit, Rémi Botsaron.
C'est une série acclamée par la critique. The Crown, elle retrace tout le règne d'Elisabeth II. On arrive aujourd'hui dans les années 60-70. On est dans les coulisses, dans l'intimité de la famille royale. Et tout cela fonctionne très bien, évidemment, auprès du public, notamment au Royaume-Uni. Et justement, on se pose cette question ce dimanche dans les carnets. Quel regard portent aujourd'hui les Britanniques sur la famille royale? Et surtout, les jeunes Britanniques, ceux qui regardent des séries, est-ce qu'ils trouvent encore du sens à cette institution séculaire? Johanna Chabas, notre correspondante à Londres, est allée à la rencontre de ces jeunes qui sont cernés par les symboles de la monarchie.
Dans la cour des élèves de l'Imperial College, les étudiants s'attardent volontiers sur la pelouse de la reine. Autour d'eux, les écoles affichent fièrement leurs armoiries, toujours ornées d'une couronne, et les rues aux alentours portent des noms de monarques, de princes et de princesses. Connor a 25 ans, il a toujours vécu à Londres. Cet environnement, ses symboles, c'est son quotidien. Quand je lui demande ce qu'il pense de la famille royale, une seule image lui vient en tête.
C'est comme demander à un poisson ce qu'il pense de l'eau. On en est tout le temps imprégné. Je ne dirais pas que je suis à fond derrière la famille royale. Ma mère l'est beaucoup plus. Elle connaît les noms de tout le monde. Moi pas. Je ne pourrais pas vous dire qui est quatrième à la succession du trône. Je dis juste que je n'ai pas vraiment de problème avec eux. C'est quelque chose qui est là. À la commémoration de l'armistice, on regarde la cérémonie. Et à Noël, c'est sympa de voir la reine faire son discours. Et ce n'est pas quelque chose d'important, mais c'est sympa.
Au centre de la pelouse de la reine, Roya est assise sur un banc. À côté d'elle, deux statues de lion gardent une tour dont la première pierre a été posée par la reine Victoria. Elle n'adore pas l'idée de vivre dans une monarchie, mais pour elle qui est d'une mère iranienne et d'un père turc, tous ces symboles de la royauté font aussi partie de son identité.
C'est ici que j'habite. C'est le passeport que j'ai. Et c'est là que mes parents ont fondé un foyer en arrivant ici. C'est comme ça. Mais oui, quand on y réfléchit, c'est vrai que c'est un peu bizarre.
En fait, c'est quand elle a visité d'autres pays qu'elle s'est rendue compte à quel point la famille royale est partout dans la capitale.
Quand on voit qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas de monarchie, qui n'ont donc pas sur leur timbre, leur nom de rue, leur nom de ligne de métro, la famille royale, ça remet les choses en perspective et ça montre à quel point c'est présent ici.
Pour rencontrer d'autres jeunes londoniens, je décide d'aller à Hyde Park, le plus grand parc de la capitale. Tout le monde peut s'y croiser et se balader entre les arbres et les écureuils. Pour y arriver, il faut emprunter Queen's Gate, la porte de la reine. Et au bout de la rue, à l'entrée du parc, je tombe nez à nez avec une statue en or massif, une statue du prince Albert, le mari de la reine Victoria. C'est là que je crois Sarah, 21 ans, téléphone à la main. Elle adore le prince Harry et la princesse Meghan. Elle fait même partie des près de 10 millions de personnes qui les suivent sur Instagram.
Ils font des jolies photos, des super phrases d'inspiration. Et ils font des vidéos quand il se passe quelque chose. Quand ça apparaît sur mon téléphone et que c'est une histoire sur la famille royale, je vais avoir tendance à cliquer. Je pense qu'il y a une différence massive de génération entre la reine et les princes William et Harry et qu'ils visent des publics différents. Pour moi, la jeune génération de la famille royale pourrait attirer plus de monde.
Dans le parc, les symboles sont toujours là. Un panneau indique discrètement une fontaine en mémoire de la princesse Diana. Harry passe devant en vélo sans y prêter attention. Le jeune homme de 19 ans n'éprouve qu'une affection très limitée pour la famille royale.
Ils apportent pas mal d'argent avec le tourisme, mais après, ce que ça dit de notre société, c'est que ce n'est pas une méritocratie. Parce qu'il y a ces gens qui sont nés avec ce statut que personne ne peut atteindre en travaillant, beaucoup et en étant déterminé. Donc c'est un peu une exception à la règle que je ne trouve pas géniale.
En fait, la perception de la monarchie change à mesure que l'on s'éloigne du centre de Londres. Je prends la direction du quartier d'Arsenal, célèbre pour son club de football, qui est d'ailleurs l'un des préférés de la famille royale. Pour s'y rendre, il faut prendre la ligne de métro Victoria, du nom de la reine, évidemment. Mais à la sortie de la station, rien ne ressemble au centre-ville. Les grands bâtiments ont laissé place à de petites maisons en briques. Les stars ici sont les joueurs de foot dont les photos sont accrochées aux fenêtres. Janae, 17 ans, descend la rue, les mains dans les poches. Elle ne se sent pas représentée par la famille royale.
Mais qu'est-ce qu'ils font vraiment pour nous? On a l'impression qu'ils ne font rien. On voit rien qui change. Il y a plein de choses qui se passent ici, comme les agressions au couteau, et eux parlent de choses pas importantes. Ils s'intéressent aux gens comme eux plutôt que les gens comme moi, toi ou nos familles. Ici, personne ne s'intéresse à eux.
Dans la rue principale, c'est devant un magasin où tout est vendu à une livre que je croise Trécha. Elle a 23 ans, elle est maintenant assistante scolaire. Elle a toujours vécu ici et elle ne comprend pas pourquoi ces taxes servent à payer la famille royale.
Je pense que beaucoup de personnes âgées l'acceptent, mais les jeunes se disent « J'ai besoin d'aide financière du gouvernement, j'ai dû payer pour aller à l'université, et pourtant, on continue de donner de l'argent à la famille royale. C'est pas juste, surtout quand on galère avec le système de santé d'ici. Si t'as de l'argent, ça ne te gêne pas. Mais si tu as besoin de l'aide de l'État, comme ici, évidemment, tu te sentiras mal par rapport à ça. »
Une seule figure royale trouve grâce aux yeux des jeunes de ce quartier, la princesse Diana, première roturière à entrer dans la famille royale. Même si beaucoup ne l'ont pas connue de leur vivant, leur affection pour elle est en fait celle de leurs parents. Londres, Johanna Chabas, Europe 1.
Johanna Chabas, qui est elle-même une jeune Britannique, à moitié, pour ne rien vous cacher, et elle est en ligne avec nous depuis Londres. Hello Johanna.
Hello Rémi.
Alors on a bien entendu dans votre reportage l'un des reproches qui est fait par ces jeunes à la famille royale. Elle coûte cher. Alors mettons les choses au clair, elle leur coûte combien cette famille ?
Alors, selon les chiffres officiels, l'année dernière, la famille royale a coûté exactement 1 livre 24 par personne au Royaume-Uni, soit en tout 82 millions accordés par le gouvernement. Cette somme, elle doit couvrir certaines dépenses de la royauté, comme le salaire de ses employés, ses frais de voyage officiels et surtout les rénovations des propriétés et châteaux de la reine. C'est justement ça qui fait grimper la facture chaque année. Elle a presque triplé en 6 ans, d'où l'énervement de beaucoup de jeunes qui commencent à peine à payer des taxes, surtout que la famille royale a d'autres sources de revenus avec ses propriétés et ses collections privées. Mais il faut savoir que la taxe est largement compensée par le tourisme qu'engendre la famille royale, près de 300 millions de livres en 2017 pour les finances britanniques. La dotation accordée à la royauté est en fait calculée en fonction de ce qu'elle rapporte à l'État.
Bon, donc la famille royale fait marcher le tourisme, c'est déjà ça, mais est-ce qu'elle est aussi utile quand le pays se déchire? Comme en ce moment avec le Brexit, on a l'impression qu'elle est la garantie d'unité du pays. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les jeunes britanniques lui accordent au moins cette qualité?
Alors bon, ça a pu être vrai à une époque, mais franchement, aucun des jeunes à qui j'ai parlé ne la voit comme ça. En fait, maintenant pour eux, c'est plutôt un divertissement. La famille royale est devenue un sujet plus léger qui permet justement, avec le Brexit, de penser à autre chose.
Ah oui, donc c'est plus du tout le même regard sur la royauté, mais il y a toujours un intérêt, hein, cette série The Crown, et ils la regardent, les jeunes britanniques.
Oui, c'est un peu le paradoxe, quasiment tous les jeunes à qui j'ai parlé ont déjà regardé la série. Alors bien sûr, il y a d'abord l'aspect artistique, c'est une série très bien produite avec un gros budget, de grands acteurs, mais c'est vrai que toutes les fictions autour de la famille royale marchent très bien, il y a cette curiosité chez les Britanniques qui veulent comprendre cette famille mystérieuse, et tous me disent que ça rend les membres de la famille royale plus humains.
Et cette famille alors, cette famille royale, est-ce qu'elle regarde, elle, cette série?
Eh bien, d'après certains proches de la famille, la réponse est oui. D'après eux, la reine a adoré la première saison, mais elle a détesté la deuxième. En fait, Elisabeth II n'a pas apprécié un épisode où son mari est montré comme un père assez dur envers leur fils, le prince Charles. Pour cette saison 3, d'ailleurs, un mini-scandale a déjà éclaté. Les réalisateurs sous-entendent que la reine aurait eu une liaison avec Lord Porchester, qui s'occupait à l'époque de ses chevaux. Une reine possiblement infidèle, ça passe pas. Mais quoi qu'il arrive, Elisabeth II ne dira rien. Elle ne fait jamais de commentaires quand elle est représentée dans une fiction et donc elle ne dit jamais si ce qui est à l'écran est vrai ou faux. Tout simplement parce que si elle le faisait une fois, il faudrait le faire tout le temps.
Ah, mystère. Alors on ne saura pas ce qu'il y en est vraiment de cette aventure avec Lord Porchester. Merci en tout cas pour toutes ces informations, Johanna. Et à bientôt.
À bientôt.
Europe 1, les carnets du monde.
13h52, avant de refermer ces carnets, Rémi Botsaron, on prend la direction de l'Autistan avec Joseph Chovanec.
Joseph, qu'on retrouve avec grand plaisir chaque semaine, philosophe et autiste Asperger, avec toujours ce regard singulier sur le monde et aujourd'hui sur le cinéma. Bonjour Joseph.
Bonjour Rémi, bonjour à tout le monde.
Joseph, vous revenez du Festival international du film Handicap de Namur.
Et oui, officiellement, ce festival appelé The Extraordinary Film Festival, c'était une initiative personnelle de mon ami Luc Bolland. Mais aujourd'hui, il s'agit clairement d'un événement culturel de premier plan qui attire les responsables politiques et surtout les foules. Et qu'on me permette une petite confidence. En fait, je ne suis pas cinéphile.
Ah bon ?
Et oui, je ne vais jamais au cinéma, par manque de temps, mais aussi pour des raisons, j'allais dire, autistiques. Par exemple, le bruit, ma difficulté à comprendre les films récents. Mmh. Et à cause de tout cela, les organisateurs du festival me proposent d'être membre du jury. Ah, c'est une savoureuse ironie tout à fait belge.
En effet. Alors, c'est quoi ce festival ?
Mais ce festival du film Handicap de Namur, c'est un tourbillon de couleurs et d'émerveillement au quotidien. Il suffit de mettre les pieds à l'une des projections pour comprendre cet extraordinaire engouement du public. Il ne s'agit pas de charité, encore moins de leçons de morale. Tout simplement, le handicap permet beaucoup plus de choses en matière cinématographique. Les films habituels avec uniquement des gens valides, à l'inverse, sont assez standardisés à mon avis. Il y a 3 ou 4 éléments réchauffé, remixé dans chaque film ou presque. Dans le champ du handicap, on étend considérablement l'horizon des thématiques. Les acteurs trisomiques en fauteuil roulant ou autistes peuvent faire des choses qui sont impensables dans un film habituel. Et les jeunes du public ne s'y sont pas trompés. Ils ont donné leur prix à un film letton, Just Vasi. Just, c'est un prénom.
C'est un prénom, Just Vasi. Alors qu'est-ce qu'il raconte d'extraordinaire, ce film ?
Mais c'est l'histoire vraie d'un jeune homme tronc. Qui a perdu les deux jambes dans un accident et qui se lance dans une poursuite folle à skateboard pour rattraper des voleurs. Et j'ai pu d'ailleurs le rencontrer. Je peux vous dire qu'à côté de lui, bien des gens invalides sont en vérité handicapés. Et cet émerveillement tend à pousser les gens dans un état second entre enfance et rêve. Quand dans le film Duke, un jeune homme autiste totalement non-verbal, c'est-à-dire qu'il ne parle pas du tout, et dont la famille est au bord du précipice subitement quand il commence à écrire dans un anglais parfait des phrases sur sa tablette, les téléspectateurs ressentent cet état second. Alors cet effet magique du handicap est d'ailleurs le socle d'un film bien connu et qui a été projeté hors compétition au cours du festival. Hors norme.
Oui, hors norme, c'est ce film de Nakache et Toledano qui est à l'affiche en ce moment.
Oui, tout à fait. Mais je dirais, c'est surtout le film de Daoud Tatou, mon ami, qui est le vrai héros du film et qui était venu d'ailleurs au festival. En vérité, le film hors norme n'est pas tellement un film sur l'autisme, mais plutôt un film sur les effets magiques de l'autisme. Ah non, je ne fais pas allusion à ces fantasmes sur la prétendue capacité extraordinaire des autistes en calcul ou en informatique. Non, c'est pas ça. C'est ça. Simplement de voir comment la présence des personnes autistes aide à la réinsertion sociale et personnelle des jeunes, comme on dit, des banlieues. Et à y songer, il y a assez peu de sujets dans le monde qui puissent réaliser un tel consensus et réenchanter le monde.
Oui, donc, même si vous n'êtes pas cinéphile, on vous sent complètement sous le charme.
Oui, j'avoue que par moments, j'étais quasiment jaloux. Par exemple, quand on regarde le film L'éloquence des sourds de Virginie Delalande, puis quand on dîne, pardon, soupe à la française belge avec j'ai pu constater que certaines personnes n'avaient pas tous mes problèmes autistiques avec les lieux bruyants. Par exemple, les personnes sourdes appareillées, comme Virginie Delalande, peuvent tout simplement débrancher la machine dans un lieu bruyant et à eux, la sérénité du silence. J'étais jaloux. Les uns entendent trop, les autres pas assez. Le monde est décidément mal fait. Mais l'important, c'est que l'on, si j'ose dire, s'entende bien et que l'on continue de s'émerveiller en explorant explorant les nouvelles facettes de ce que humain veut dire.
Effectivement, et voilà qui donne envie de découvrir ce festival. Ça se passe donc à Namur et ça a lieu, je crois, tous les 2 ans, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Donc, il faudrait y penser en 2021. Merci, Joseph.
Merci, Rémi. À tantôt.
À tantôt, oui, comme on dit, à Namur. Et c'est donc en Belgique que l'on referme ces carnets du monde. Merci de nous avoir suivis sur 4 continents et même sur 1 ou 2 océans aujourd'hui. Merci à Florence Gimala qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Marc Fréjean, tout en maîtrise, à la réalisation.